De retour dans le magazine de Canal Sud 92.2 et avant de vous laisser avec une rediffusion qui parle justement d'une brochure consacrée au conspirationnisme, complotisme, j'aimerais vous faire un petit agenda de ce week-end.
Ce ne sont que des foutaises. N'écoutez pas du tout ce qu'on diffuse sur Canal Sud. On rediffuse des rediffusions. C'est l'enfer. Non, vous êtes bien sur Canal Sud 92.2. Nous sommes bien le mercredi 16 mars 2022. Et comme à l'accoutumée, nous allons bientôt laisser la place à l'émission des lessiveuses. Et maintenant que j'ai dit ça, je ne sais plus quoi dire parce que je n'ai pas de musique à vous proposer. Est-ce que les lessiveuses sont prêtes? Est-ce qu'on lance l'émission? C'était peut-être pas la manière dont vous aviez vu les choses.
Nous sommes prêtes.
C'est parti. Et donc c'est parti.
Bonjour à nos auditeurices, c'est mercredi et en ce début d'après-midi toujours aussi venteux, on vous embarque avec les lessiveuses pour nous décrasser un peu. On cache pas que le vent, ça nous a rendu un peu vénères. On est donc là pour frotter les grosses taches restées collées depuis la semaine dernière. C'est drôle, je me disais justement hier, en marchant au milieu de la tempête, je me disais que les ouragans les plus violents, ceux dont j'ai retenu le nom, portent des noms féminins. Et que vraiment, si ça avait été moi pour décider, vu comme le vent, quand il passe, on sent que lui, on n'entend que lui, vu comme le vent prend toute la place, vu comme le vent c'est énervant, ben moi, tu vois, au vent, je lui aurais pas forcément donné des noms de femmes. Cette petite réflexion m'a permis non seulement de m'aérer l'esprit, mais surtout de découvrir que, de l'après-guerre à 1979, avant que les féministes ne s'en mêlent, les noms donnés aux tempêtes étaient exclusivement féminins. Inutile d'expliquer pourquoi, la réponse est évidente, femmes et ouragans étant liés par leur caractère imprévisible et versatile. Du coup, après 1979, on a décidé d'alterner un ouragan monsieur, puis un ouragan madame, et ainsi de suite. C'est donc dans cette seconde moitié du XXe siècle que l'horizon des ouragans, lié à tout jamais à celui de l'humanité, est devenu, lui aussi, binaire et genré. Désormais, comme les petits bébés humains, les ouragans doivent naître hommes ou femmes. Je note que c'est d'ailleurs aussi le cas, par exemple, pour les armoires IKEA. D'ailleurs, selon une étude menée par les chercheurs de l'Université de l'Illinois et publiée dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, les ouragans au nom féminin feraient à force égale beaucoup plus de morts que les ouragans au prénom masculin. Et ce, car l'ouragan féminin serait perçu comme moins menaçant que s'il avait porté un nom d'homme. La population confrontée à l'ouragan prendrait en conséquence moins de mesures de protection face à la menace. Ça nous permet d'envisager comment nos perceptions inconscientes liées au genre peuvent aller loin. La question qui sous-tend ici, donc, à quand la non-binarité pour les ouragans? Alors, petit topo de la lessive du jour. Lucie va encore nous donner envie de lire, et pour ce faire, elle a choisi cette fois-ci le livre « Nada » de Carmen Laforêt. Fallait bien en faire une petite chronique après l'avoir lu trois fois. Manon va encore nous faire voyager outre-Atlantique grâce à la librairie du Québec et nous lire une nouvelle qui l'a beaucoup bouleversée. Cette nouvelle s'appelle « Les collants préférés » et provient du recueil de nouvelles « Les choses brisées » de Catherine Côté. Et pour ma part, je vous partage une petite lettre d'amour qui s'appelle « Lettre de réponse à ce mec que j'ai croisé dans les toilettes du Rex ».
Merci beaucoup Mathilde pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous parler, de vous présenter la vie d'une autrice que j'aime beaucoup. Elle est espagnole et elle s'appelle Carmen Laforet. Et l'envie de cette chronique, elle m'est venue avant-hier, car comme l'a dit Mathilde, je suis en train de relire son premier roman. Oui, je dois être à 4 fois maintenant, quelque chose comme ça. Donc, je vais vous en reparler plus en détail. Et dans cette période si particulière pour nous, étudiantes, en tout cas du master, là en création littéraire, on arrive en fait là dans les derniers mois de nos études. Et je trouve que la vie de cette femme, elle est très inspirante et assez éclairante. Surtout son rapport à la littérature, moi, il m'a fascinée quand je l'ai découverte il y a quelques années. Voilà. Donc, je vous conseille d'ailleurs aux plus hispanophones d'entre vous un excellent documentaire sur sa vie qui est dispo sur YouTube. Il s'appelle Carmen Laforet, la chica rara, comprendre la fille bizarre. Donc, bon, je vais raconter comme ça un petit peu sa vie par étapes. Alors, j'avais voulu agrémenter cette espèce de biographie orale comme ça, avec des bouts de sa, l'entendre lire son livre, etc. Le problème, c'est que c'est en espagnol, que je peux vous le traduire, mais que c'est un métier et que j'ai pas du tout les capacités pour rendre l'intelligence de son style, sa poésie. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop aride et que on ait quand même envie d'écouter la vie de cette femme. Donc Carmen Laforet a une enfance heureuse et libre. Donc elle est née à Barcelone en 1921 et quand elle a 2 ans, la famille déménage et ils vont aux îles Canaries. Elle y restera jusqu'à sa majorité. Donc entre la mer, la plage et les montagnes, Carmen et ses 2 petits frères découvrent la beauté de cette île où l'hiver n'existe pas. Hein. Il fait toujours beau temps, quoi, pour dire. Leur mère est une femme très cultivée. Elle laisse tomber sa carrière de professeur et transmet son goût de l'étude à ses enfants et surtout l'amour de la lecture. Elle meurt à 33 ans, malheureusement. Donc Carmen, qui est adolescente alors, elle voit quelque temps plus tard l'arrivée de sa marâtre. Elle raconte, c'était comme un conte de fées, malheureusement réel. C'est-à-dire que dans un récit autobiographique, Carmen décrit cette belle-mère qui arrive dans sa vie comme ça, un peu enchanteresse, après la mort de sa mère. Donc elle affronte le deuil et cette belle-mère les déteste profondément. Elle est jalouse et elle est maltraitante. Et cette douloureuse rencontre apprend à l'adolescente qu'est Carmen à l'époque. Elle dit elle-même, la fiction est toujours pauvre par rapport à la réalité. Et elle écrit, elle témoigne que cette hostilité familiale lui permet une indépendance inhabituelle pour une jeune fille déjà de son âge, mais surtout de l'époque, hein, où les jeunes filles sont extrêmement encadrées. Elle, beaucoup moins. Elle nage des heures durant, elle ignore ses heures de cours, les horaires de table, et c'est une jeune fille qui marche pendant des heures sous le soleil écrasant, les pieds dans le sable, et elle assouvit ses désirs de liberté, tantôt dans sa solitude, tantôt dans ses jeux avec ses amis. Donc, elle vit comme ça, au gré un petit peu de ses tristesses, mais surtout de ses désirs. Et la jeune Carmen approche de sa majorité. Son premier amoureux vient de quitter l'île pour aller poursuivre ses études à Barcelone. Et gonflée d'espoir et d'attente, confiante, la jeune femme obtient de son père la permission d'elle aussi quitter l'île de son enfance. Elle embarque pour Barcelone, c'est une ville qu'il a vue naître et dont elle n'a aucune idée, seulement des impressions un peu vagues. On sait, grâce aux dates, qu'elle fête ses 18 ans durant la traversée, accompagnée de sa valise pleine de livres. Donc elle pose le pied sur la terre ferme, enfin majeure, prête à découvrir la vie adulte. Elle trouve une ville meurtrie, marquée par la guerre. Elle est accueillie chez ses grands-parents, rue Arribau. C'est une fameuse rue qui va hanter les pages de son premier roman, donc Nada. Comprendre, si on le traduit, ce titre par rien ou vide. Des témoins, pour l'avoir connue à cette époque sur les bancs de la fac, racontent qu'elle n'y passait pas beaucoup de temps. Carmen Laforet, elle est prise avec ses désirs d'indépendance et de joie. Hein, c'est tout ce qui ruisselle à cet âge. On s'accommode mal d'un sentiment épais, comme ça, de tristesse qui ronge tant au sortir de l'adolescence. Et Carmen vagabonde dans les rues de la ville, inlassablement, solitaire et assez insouciante. Elle avait un petit carnet de notes avec elle. Et quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait « J'écris un roman ». Et « Quel est son titre ?» on lui demandait. Et elle répondait toujours « Non, nada, je ne sais pas, je ne trouve pas, rien ». Et donc Carmen Laforet, après à peu près 1 an d'études, est assez déçue de sa vie à Barcelone. Elle suit une de ses grandes amies qui s'appelle Linca et elle part s'installer à Madrid en 1942. Elle s'inscrit à la fac de droit, Et de la même manière qu'à Barcelone, Carmen délaisse les amphithéâtres. Elle leur préfère la ville et ses déambulations solitaires, d'interminables promenades sans but, avec des critelles, ses écrits et ses notes de cours éternellement accrochées à son épaule. Moi, quand j'ai découvert cette petite période de sa vie, qui n'est que le début, ça m'a beaucoup marquée, parce que quand on arrive à la fac, quand on a 18 ans, il y a une espèce de réticence à aller aux cours, et en même temps, c'est plus compliqué que ça, parce qu'évidemment, on y va, mais on apprend bien plus tard quand on est un petit peu plus intégré dans les parcours universitaires, qu'en effet, la première année, les L1, il y a un tri qui est fait, que c'est difficile, c'est compliqué, il y a une administration chiante, des profs exigeants, etc. C'est pas pour rien. Et j'avais retrouvé ça un petit peu chez Carmen Laforet, qui préfère vagabonder en ville. Et donc, à Madrid, elle est hébergée par sa tante, et cette jeune femme, on la décrit comme un peu sauvage. Hein. Elle est polie mais fugace, elle sort et elle rentre de l'appartement sans prévenir personne, elle quitte ses cours en plein milieu sans s'excuser, elle quitte ses groupes d'amis au milieu de ses phrases sans s'expliquer, et elle vagabonde en fait toujours seule, avec un beau sourire, ceci dit. Je pense que c'est à cette époque-là elle devait aussi se chercher. Et donc Carmen, elle sent au bout d'un moment qu'elle a mis le point final à son roman et elle ne sait qu'en faire. Et son amie Linka, qui était du beau monde, hein, pour le dire comme ça, la met en lien avec un ami à elle qui s'appelle Cerezales, qui est journaliste et critique littéraire. Cet homme aime beaucoup le roman et dit à Carmen, écoute, il est très bon, il faut que tu le présentes au prix Nadal. Le prix Nadal, c'est un grand prix espagnol de littérature qui récompense les primo auteurs. Sa toute première édition de ce prix, il est en 1944 et c'est l'année où Carmen envoie son manuscrit. Ça se passe dans la nuit du 5 au 6 janvier 1944. En Espagne, cette nuit, elle est très particulière. Elle s'appelle La Noche de los Reyes Magos. C'est la nuit des Rois Mages. C'est une espèce C'est la nuit du Père Noël pour nous, un petit peu. Même s'ils ont le Père Noël en Espagne, la nuit des Rois Mages est quand même plus importante. Donc pendant cette nuit-là, son manuscrit arrive de justesse avant la fermeture de la réception des manuscrits. Le jury est obligé de le lire en une nuit. Et le lendemain, Nada est annoncé dans tous les journaux comme le grand gagnant. Et Carmen Laforet se retrouve bombardée comme ça, tout en haut ces sphères comme ça de critiques littéraires. Elle reçoit beaucoup de louanges du monde littéraire dont elle ne connaît rien, hein. Et au demeurant, elle intrigue, on s'étonne de son statut comme ça, une jeune étudiante, on s'étonne de ses 23 ans, on s'étonne de tout en fait à son sujet. Des artistes contemporains et des professeurs émérites se succèdent dans le documentaire pour expliquer ça a été une véritable bombe culturelle, en fait, ce roman pour l'Espagne. C'est un roman qui parle de beaucoup de choses à la fois, dont l'Espagne avait besoin d'entendre dans la période de l'après-guerre. Hein. En plus, elle apporte un style qui est vraiment tranchant, qui est intelligent. On le décrit souvent comme frais, surprenant et qui captive énormément les lecteurs. Et il y a une manière dont Carmen capte ce sentiment de la jeunesse à qui on fait sentir qu'elle est en trop dans ce monde d'adultes, alors qu'on nous a promis que ce monde était à notre portée, parce qu'on avait justement la jeunesse pour nous, avec ses fameuses envies de bouffer le monde, d'être en confiance. Et Carmen, elle sait merveilleusement, en fait, en déverser la tristesse et l'abandon avec humour et sincérité. Elle décrit le monde des jeunes, comme ça, mais aussi le monde des adultes. Avec beaucoup de lucidité. Donc Nada est un succès commercial et critique. Hein. Il devient le roman espagnol le plus traduit aux côtés de Don Quichotte. Encore aujourd'hui, c'est une référence, vraiment. Et il entre dans le patrimoine littéraire espagnol. Moi, par exemple, je l'ai lu à 20 ans, en licence au Havre, parce que j'avais une option espagnole. Et il était au programme. Et l'année dernière, au Mirail, là, dans le master, on avait une option obligatoire. J'ai pris espagnol et on l'avait au programme aussi. Donc ça, je l'ai bien poncé. Donc, parce qu'il aborde la précarité étudiante, il aborde le déclin bourgeois, la misère, la violence quotidienne, la société espagnole d'après-guerre et le féminisme. Il y a une critique des catholiques et des tortures internes que peut exiger la foi, les violences conjugales, la folie, la critique de la pornomisère par la bourgeoisie et la critique de la sacro-sainte morale sociale aussi. Donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses avec un style simple, vraiment. C'est parfaitement abordable et c'est aussi là tout le talent de Carmen. Et donc, pour pitcher très simplement le roman, j'ai une espèce de réticence à résumer. Je suis très mauvaise pour parler des livres que j'aime beaucoup, en général. Mais, en fait, on est dans la peau de Andrea. Donc, c'est une jeune fille de 18 ans qui arrive à Barcelone pour faire ses études avec toutes ses envies de liberté qu'elle a. Et puis, elle va déchanter. Elle va habiter pendant un an chez sa famille qui l'héberge dans un appartement de la Calle Arribau. Donc, le côté un petit peu autobiographique s'arrête là, hein, parce que la description de cette vie familiale n'a rien à voir avec ce que Carmen a vécu, évidemment. Mais voilà, voilà. Très simplement, c'est ça l'histoire du livre, en gros. Et donc, Carmen Laforet, pour en revenir à elle, elle intrigue beaucoup dans le paysage littéraire parce qu'elle se hisse immédiatement au sommet, à côté de confrères auteurs de son époque qui sont déifiés. Hein. Ils sont déjà reconnus et c'est un milieu de penseurs, d'intellectuels. Et puis, il y a la presse, les questions pleuvent, les propositions d'interviews, les plateaux de télé, les invitations dans des dîners mondains. Les autrices contemporaines disent qu'elle a ouvert une voie, surtout pour les femmes autrices, parce que à cette époque-là et même avant, les femmes qui écrivaient, on appelait leurs écrits des novelas rosas, c'est-à-dire des nouvelles roses, des nouvelles soi-disant écrites par des femmes certes, mais pour des femmes. Donc c'était misogyne évidemment, très fermé comme milieu la littérature surtout à l'époque aux femmes. Et elle arrive et elle casse tout. Elle casse tous les codes. Et Carmen Laforet déteste sa célébrité. Toute cette attention lui paraît affreuse. Pour elle, un succès littéraire ne devrait pas inclure l'intérêt pour son autrice. Et elle écrit dans une de ses autobiographies « J'ai compris que je n'écrirai plus rien tant que tout ce tapage ne serait pas terminé et qu'on ne cessera de me demander « Et la suite, que vas-tu écrire maintenant ?» Donc d'après les autrices et observatrices contemporaines, les critiques, elle a reçu trois fois plus de pression médiatique que quiconque parce qu'elle était jeune, parce qu'elle était belle. Et ça n'a pas joué à son avantage en fait, parce que si elle avait été plus âgée et moins séduisante, on n'aurait pas autant exigé d'elle. Mais comme elle avait beaucoup d'esprit, elle arrivait à répondre aux questions trop indiscrètes, mais elle n'a pas réussi à projeter une persona, comme on dit, c'est-à-dire une espèce d'image de soi-même qui permet de se protéger de la pression médiatique. Ça, elle n'a pas réussi à le construire parce que, en même temps, elle arrive projetée là, dans ce monde-là. Il y a sa tête partout dans les rues. Elle a 23 ans, quoi. Enfin, elle est toute jeune, donc elle ne peut pas se protéger correctement de ça. Et donc, dans toute cette attention, Carmen épouse Manuel Cerezales, donc c'est cet ami journaliste et critique littéraire qui lui avait conseillé d'envoyer son roman au prix Nadal. Il se marie, c'est un intellectuel de 12 ans son aîné, et le couple a rapidement 5 enfants. Et comme le dit le documentaire, cette fille bizarre, c'est-à-dire cette jeune fille qui ne parlait pas de mariage, qui était très solitaire, qui était dans ses écrits avant tout, va devoir se transformer en femme au foyer conventionnelle. Dans son autobiographie, Carmen explique son quotidien. Elle se levait à 5h du matin, grattait le plus longtemps possible des articles de presse, parce qu'il fallait bien vivre, et éventuellement, quand elle le pouvait, parce qu'avec 5 enfants en bas âge, on s'imagine que c'est compliqué. Elle écrivait quelques pages de romans qu'elle ne réutilisait pratiquement jamais. Elle témoigne de la difficulté d'écrire pour une mère de famille à cette époque. Et une de ses filles, qui est la cadette, qui s'appelle Christina, raconte que lorsqu'elle était enfant, on lui disait comme ça fièrement « Ah, mais tu es la fille d'une grande autrice, tu sais, ta maman écrit. » Et l'enfant répondait « Ah bon ? Pourtant, ma mère n'écrit pas. » Et Christina témoigne encore à la maison, ils avaient deux bureaux, on les appelait, il y avait le gros bureau, il y avait le petit bureau. Le gros bureau était celui du père, dans lequel personne n'entrait, qui était spacieux, où on respectait le silence. Le petit, c'était celui de la mère, c'était une pièce minuscule, où il n'y avait que le minimum, une table, sa mère, Carmen, qui était en train d'écrire, quand elle le pouvait, au milieu des jeux et des enfants. Mais, en contrepartie, sa fille explique que c'est au milieu du bruit, et des invités qui circulaient toujours dans la maison qu'elle écrivait le plus. Et il faut bien mettre en relief aussi la difficulté pour une femme à l'époque d'écrire. Hein. Quand on lit la presse de l'époque sur les interviews de Carmen, on l'interroge sur sa vie de famille et son rôle de mère. En comparaison, aucune trace de ces questions à ses confrères. Dans un enregistrement, on entend quelques questions qu'on lui pose et les réponses qu'elle donne. Bon, c'est un tout petit entretien, mais je vous les ai traduites. Donc, on lui demande « Pensez-vous longtemps à un roman avant de l'écrire ?» Oui. « Vous isolez-vous pour écrire ?» Oui, quand je peux. « Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? Votre vie de famille ou votre vie d'écrivaine ?» Alors, elle répond « Tout artiste, s'il a une famille, a deux vies, qu'il est parfois impossible de séparer. Le seul fait qu'on ne puisse renoncer à aucune des deux suppose que les deux sont dites identiquement importantes. » Et on voit bien que là, la question qu'on lui a posée, c'est « Préférez-vous vos enfants ou vos romans ?» Et aujourd'hui, on la pose plus comme ça, mais c'est tout juste. Hein. Est-ce que vos enfants influencent votre écriture, etc. C'est un exemple de question qu'on ne pose pas aux hommes, ni avant, ni maintenant. Hein. Et en effet, voilà, si tu es mère de famille à l'époque, surtout, tu ne dois être que ça. Tu n'as pas à être autre chose, c'est-à-dire toi-même, vouloir être indépendante de cette famille. Tu es mère et tu n'es rien d'autre. Donc, voilà, avec le temps qui passe, il y a une grande peur pour Carmen Laforet qui commence à se dessiner. Une énorme pression s'accumule au-dessus d'elle pour la parution de son deuxième roman. Et elle entend, parce qu'elle le lit dans la presse et c'est courant, selon le monde littéraire qu'elle côtoie, ben voilà, on lui fait des commentaires, la presse se laisse aller à des supputations comme ça, en gros titres. Elle n'est pas capable d'écrire autre chose, qui soit de la qualité de nada. Et maintenant, c'est une mère de famille, donc elle n'écrit plus. Donc, on décrit nada comme... Et ce qui est le cas, c'est vrai qu'elle a écrit là une œuvre majeure, déjà. Donc... surpasser ça, c'est déjà très compliqué, mais ça reste du domaine de soi-même. J'ai dit ça, c'est à elle-même de se le dire. C'est pas à la presse de l'écrire, en gros, tout le monde en parle, bon voilà, c'est hyper agréable. Donc l'écriture de ce second roman, elle est dure. Il y a peu d'argent, il y a des enfants petits, il y a peu de temps et beaucoup de pression médiatique, quoi. Et elle explique que, bon là, c'est moi qui fais la traduction dans son autobiographie. Elle explique, à cette époque, j'ai été submergée, engouffrée au fond d'une mer, dans les joies, les tristesses, les préoccupations de la vie domestique. Et en effet, entre son premier roman et le second, il y a 8 ans qui s'écoulent. Alors ce second roman, il rencontre de bonnes critiques, il est bien accueilli du public, mais il n'a pas, d'après les critiques, hein, la force de son premier. Parce que le succès de Nada, je pense, a été un prix terrible qu'elle a dû payer. Parce qu'elle a mis la barre très haut d'un coup. Et il y a eu beaucoup d'attentes. Et tout le monde s'est centré sur elle. Donc ça, c'est très dur pour écrire, pour être l'esprit, voilà, dégagé de tout ça. Et c'est quasiment impossible de réussir à se concentrer et à être tranquille. Surtout que bon, c'est une mère de famille à côté qui a quand même 5 enfants et il faut quand même manger. Donc c'est une chose qui a été très dure pour elle. Elle savait en l'écrivant que elle ne pouvait provoquer qu'une espèce de déception parce qu'elle voyait bien l'attente qu'il y avait. Elle l'écrivait et elle savait que les gens allaient être déçus. Et ça, c'est injuste. Et en quelque part, c'était assez inévitable. Donc, pour pallier à ces pressions, Carmen Laforet, elle a pas perdu son habitude de faire de longues promenades sans but, dans la nature, avec ses enfants, le plus possible. Être proche des montagnes, des champs, des animaux et du grand air, comme on dit. Elle y trouvait une forme de liberté, de joie qui lui était indispensable. Christina, sa fille, elle parle d'un sentiment de plénitude qui était palpable lors de ses promenades avec sa mère. Elle écrit, elle continue d'écrire, hein, elle fait paraître un troisième roman qui s'appelle Une femme neuve, qui reçoit en 1954 le prix national de littérature. Donc elle est quand même, elle continue d'être primée, d'être lue, de vendre. Donc, mais bon, elle rêve de voyager, quoi. Elle rêve de quitter l'Espagne, cette figure médiatique. Elle est devenue, voilà, depuis le début, ça l'insupporte. Et elle part voyager à Tanger, où son mari était journaliste. Donc, elle va le voir de temps en temps. Et puis là-bas, elle rencontre, et c'est la première fois dans sa vie, hein, alors qu'elle a déjà publié 3 romans, elle rencontre un groupe d'auteurs et d'autrices. Et elle se lie notamment avec Truman Capote, par exemple. Et elle découvre à Tanger la sensation d'être étrangère. Elle explique que c'est un sentiment qui, si elle n'avait pas connu toute cette pression médiatique, aurait été douloureux. Mais elle devient pour elle quelque chose d'heureux. Elle dit que c'est étrangement libérateur, parce que personne ne la connaît là-bas. Donc évidemment, ça l'arrange. Elle se ressource et elle décide d'écrire à son retour à Madrid une trilogie qui s'appelle « Trois pas hors du temps ». Et c'est censé mêler l'histoire individuelle au récit historique de l'Espagne. Gros projet, voilà. 3 romans, 3 temps de la vie de son personnage et 3 temps de l'histoire de son pays. Elle signe chez son éditeur et elle annonce le premier tome qui s'appelle Insolation. Et Carmen, pour écrire, elle décide de s'isoler dans des maisons champêtres qu'elle loue peu cher. Et c'est à ce moment-là que l'autrice, qui avait déjà un rapport très douloureux à l'écriture, elle va expérimenter une vraie bataille avec, en succombant à d'énormes pressions, en fait. Elle explique qu'il y avait en elle une résistance à écrire incompréhensible. Elle a passé des nuits entières à écrire pour déchirer le résultat sans l'avoir lu une seule fois, de manière très, avec beaucoup de rage. Elle dit qu'elle écrit « Je dois écrire ce livre en oubliant que je vais le publier parce que sinon je ne l'écris pas ». Et Christina, sa cadette, elle confirme, hein, le sol de sa chambre était rempli de feuilles déchirées qui débordaient de la poubelle. Et il y avait une dame qui lui apportait ses repas. Et cette dame disait toujours, étonnée en redescendant le plateau dans la cuisine, « Mais cette femme, elle n'écrit pas, elle fait que déchirer. » Et ce que je voulais, Carmen Laforet, c'était créer quelque chose de nouveau. Elle était toujours insatisfaite parce qu'elle veut travailler son style en profondeur pour cette trilogie-là en particulier. Et j'ajoute, pour moi, perso, pour de la petite expérience, je ne me compare pas du tout, hein, mais de la petite expérience que j'ai à vouloir travailler comme ça, c'est parce que pour réussir quelque chose de nouveau, il faut casser ce qu'on écrit soi-même, il faut se déchirer soi-même, il faut se couper la parole, il faut se défaire de tout ce qui est soi, et avant soi, de se défaire de tout ce qui est autre. Donc, c'est une opération de rage vorace. Enfin, ouais. Je regarde Mathilde parce que moi, quand j'écris, je déchire beaucoup. Ouais, je garde pas beaucoup, mais ouais, c'est pour ça. Moi, quand j'ai rencontré, enfin, cette femme entre gros guillemets, je veux dire, quand j'ai connu sa vie, ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup fait du bien. Mais voilà. Donc après la publication d'Insolation, elle a 42 ans et ça sera son dernier roman, même si elle ne le sait pas, mais elle n'écrira plus. Et plus de romans. Et donc ce roman, c'est son dernier. Au final, elle n'en a écrit que 4. Et il raconte l'histoire de Martine. Donc c'est un jeune qui est soumis, qui est oppressé par son père, qui est bourgeois. Et cette éducation qu'il lui impose est en train de le tuer. Elle est moribonde. Et par une rencontre avec une famille tzigane, il va renouer avec un monde sensuel, avec un monde libre. Et Carmen y couche une critique de la morale de l'époque, hein, liberticide et des règles de société. Et ce roman-ci, qui rencontre comme les autres, hein, un grand succès commercial et critique, mais par contre celui-là, il est considéré au même niveau que le premier. Et c'est le dernier qu'elle écrira sans le savoir. Donc elle a quand même réussi, bien que ce soit douloureux, à voilà, surpasser Nada, ce fameux premier roman. Et donc après avoir publié Insolation, elle part aux États-Unis parce qu'elle est invitée par l'État nord-américain. Et donc, elle va de New York à la Californie, elle fait l'entièreté. Et par le biais de professeurs espagnols, elle entre en contact avec les universités américaines. Et elle découvre, un peu incrédule, l'ambiance des campus, mais surtout l'impact de son roman sur ses étudiants. Ses étudiants américains ont lu Nada, ils n'ont rien à voir avec le personnage principal, mais ils s'y sont parfaitement identifiés, en fait. Et Roberta Johnson, c'est une professeure à l'université de Washington qui va devenir son amie, sa biographe, explique que c'est le roman le plus lu dans tous les parcours universitaires nationaux américains des départements hispaniques. Et il n'y en a pas un, il n'y a pas un programme qui ne le contienne pas. Et aujourd'hui encore, on le vérifie, hein, parce que moi je l'ai eu deux fois en cours quand même, dans deux parcours différents. Et donc, après ce grand voyage aux États-Unis, Carmen, elle n'a aucune envie de revenir à Madrid. Elle en a marre de cette Espagne qui la poursuit tout le temps, elle en a marre. Et elle demande la permission à son mari, une espèce de congé illimité où elle s'éloigne de sa vie de famille. C'était obligatoire à l'époque, il fallait l'accord du mari pour ne serait-ce que partir en voyage. Et donc, il lui accorde la condition. Enfin, il lui accorde ce voyage-là à la seule condition, elle ne doit jamais rien écrire sur leur relation, sur leur vie de famille, sur leur couple, sur leur vie amoureuse, rien qui n'y ressemble, en tout cas. Et donc ça a dû beaucoup la bloquer, moi je pense personnellement, parce que forcément on se nourrit de ce qu'on vit et on a besoin d'écrire des choses pour les analyser, s'en débarrasser, etc. Avec cette injonction-là de ne rien écrire là-dessus, je pense que ça a beaucoup dû la bloquer. Mais bon, elle repart voyager parce qu'elle veut trouver un espace qui lui est propre, parce qu'entre sa vie de famille et sa vie médiatique, elle n'a pas d'espace. Et elle veut écrire elle veut réinventer encore une fois son style littéraire, hein, tout en sachant que son vécu ne doit pas lui servir de matière première, ou du moins elle doit l'éviter, parce que sinon son mari va lui enlever sa permission de congé, on va dire. Donc elle va à Paris avec des amis et elle va à Rome. Et en fait, on se rend compte pendant ses voyages qu'elle le dit elle-même, je n'écris pas. Elle n'écrit pas, elle se laisse porter par la vie, elle veut la vivre avant de l'écrire. Et même, je pense que pour cette femme, concilier, ça a dû être très difficile de concilier que son bonheur soit lié à son foyer, qui était important pour elle, hein, mais son désir de liberté aussi. Je pense que ça a dû être très dur à concilier pour elle. Et tout le monde s'étonne autour d'elle quand on la voit écrire et qu'elle déchire, ou alors qu'elle refuse d'écrire. On lui dit « Mais pourquoi tu déchires, Carmen, avec le talent que tu as ?» Mais elle n'est jamais satisfaite. Et c'est une vraie guerre, en fait, entre ses désirs, ses besoins d'écrire, et la profonde peur de ne pas réussir à atteindre le but qu'elle se fixait. Elle est paralysée, en fait. Et Raphaël Alberti, c'est un copain réalisateur italien, il lui donne un conseil, il lui dit « Enregistre-toi au magnétophone, si tu n'arrives pas à écrire, parle. » Et donc c'est ce qu'elle fait pour essayer de dresser et d'apprivoiser ses angoisses. Et à partir de ce moment-là, elle refuse toutes les interviews, elle refuse les invitations au programme télé, elle répond quasiment systématiquement « je n'ai rien à dire ». Et quand la presse l'appelle par téléphone, ses enfants la couvrent, répondent « elle n'est pas là, elle est sortie ». Elle refuse d'ouvrir les lettres qui s'encombrent sur son bureau, il y en avait vraiment tout un tas. À chaque fois, tous les mois, ses enfants y vidaient des lettres qui n'avaient pas été ouvertes. Il y en avait même une fois, c'est sa petite fille qui raconte ça, elle est tombée sur une lettre avec le tampon d'Hollywood parce que la Warner Bros. Lui avait fait la proposition d'une adaptation de Nada. Elle a dit non. D'ailleurs, Nada sera adaptée en film mais par un réalisateur espagnol qui n'a rien à voir avec Hollywood. Et donc bon, en fait, ça commence à devenir un petit peu pathologique. C'est une de ses filles et sa biographe qui raconte qu'à ce moment-là, cette peur d'écrire, elle a un nom pour ça, Carmen, elle parle de graphophobia, on peut traduire par graphophobie, c'est-à-dire la vraie peur du geste, du style, de la recherche. Ça commence à devenir pathologique, en fait, à ce moment-là. Et elle se sentait beaucoup plus libre hors de l'Espagne, mais elle ne pouvait pas voyager éternellement, en fait. Voilà, à la fin de sa vie, elle s'installe dans la maison de sa dernière fille, Cristina, qui l'accompagne jusque dans les derniers instants. Et il faut dire que dans les derniers temps de sa vie, Carmen Laforet n'écrit plus, ne parle plus. On suppose qu'une maladie cérébrale dégénérative aurait contribué à ce mutisme, mais rien n'est sûr finalement. En tout cas, voilà, à la fin de sa vie, elle se voue au silence. Elle meurt en 2004 et quelques mois après son décès, ses enfants décident de publier le manuscrit du second roman de la trilogie, parce que donc, son dernier projet, c'était quand même une trilogie. Elle a écrit le premier Insolation, mais après, le reste, elle s'est un peu tuée à l'écrire quelque part. Mais ils ont quand même décidé de publier le second tome. Et quand l'éditeur a vu le second tome, il a dit, mais en fait, ça faisait des années qu'elle écrivait quelque chose qui était terminé. Mais bon, ce besoin perpétuel de réécrire. Donc voilà, moi, personnellement, j'ai terminé cette chronique là-dessus. Quand j'ai découvert son roman, Nada, quand j'ai découvert sa vie, ça m'a énormément apporté, ça m'a fortifié. On peut s'identifier à la précarité qu'elle décrit dans son roman, qui est très juste. On peut, par d'autres lectures, adopter ses visions lucides et subtiles sur le traitement des femmes, sur la violence des hommes, par exemple, entre autres, mais surtout j'ai été transportée par la vie de Carmen et de son rapport conflictuel à sa propre écriture, à l'élan créateur. C'était quelqu'un pour qui le succès et la publication ont été un frein à sa créativité, l'ont empêché d'écrire. Donc voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté en tout cas, et si vous avez envie de découvrir cette femme, allez-y, c'est un bon conseil de lecture.
Santa le re, toda la cuenta que te, yo a Dios le prese, toda la cruz en el pecho, mi santa le re, toda la cuenta que te, yo a Dios le prese, tortura. Todos los luceros del cielo se reflejan en mi pelo. Todos los luceros del cielo,
¿cómo? ¿Qué?
Todo en mi pelo.
¿Qué?
De madruga, de madruga, de madruga, de madruga, de madruga.
Alors, comme l'a dit Mathilde tout à l'heure, je vais vous lire un texte de Catherine Côté, extrait du recueil Les Choses Brisées. Catherine Côté est une autrice québécoise. Elle est née en 1991 à Montréal. Elle lit des romans russes, des best-sellers d'horreur et de la poésie beatnik. Elle écrit aussi Quand le temps est bon, et il est souvent bon. Les collants préférés. Ça fait un moment déjà qu'il flirte avec elle, au bureau. Il vient la voir à son bureau, il lui parle de la météo, lui pose des questions sur les livres qu'elle lit, ce genre de choses. Il est maladroit, il fait des blagues qu'elle n'est pas certaine d'aimer, mais quand il l'invite à venir chez lui pour souper, elle dit oui. Elle ne sait pas pourquoi, sans doute parce que ça fait longtemps. sans doute parce qu'il lui a dit des choses comme « ça fait vraiment longtemps que tu m'es tombée dans l'œil et tu es vraiment la femme parfaite et je suis vraiment l'homme le plus chanceux de la ville ». Elle s'habille bien, se maquille comme il faut, met sa jupe préférée et elle se croit fin prête, mais son cœur bat quand même à tout rompre lorsqu'elle arrive chez lui. Elle est nerveuse. Ça la rend toujours nerveuse, ces choses-là. Elle espère qu'il lui dira de nouveau qu'elle est magnifique, rien que pour détendre l'atmosphère. Elle n'est jamais venue dans ce coin de la ville. L'appartement est sale et encombré. Des caisses de bière vides sont empilées dans un coin. Des restes de nourriture traînent sur le comptoir. Il lui dit que sa coloc est partie pour la soirée. Ils seront tranquilles. Elle s'installe à la table, boit la bière plate qu'il lui présente. La bière est trop amère, mais la fille demeure polie. Elle essaie de se rendre intéressante. Elle lui pose des questions sur ce qu'il fait, au bureau. Elle n'avait jamais pensé lui poser la question, et ce qu'il fait en dehors du travail aussi. Il lui parle de sport. Il joue au softball. Elle ne joue à rien. Elle choisit un disque, lui parle des Beatles. Il répond à peine. Il parle beaucoup de lui, évite ses questions à elle. Il est moins gentil qu'il l'était au bureau. Il ne lui dit plus rien de beau, ni de drôle. Il ne lui dit même pas qu'elle est belle. Elle se demande si elle aurait dû faire un effort de plus. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Elle tire sur ses collants discrètement. Se dit qu'elle a tout gaspillé. Sa gentillesse, ses beaux vêtements, ses sourires. Il fait cuire une pizza congelée. Désolée, je n'ai pas eu le temps de passer à l'épicerie. Elle sourit, poliment. On ne juge pas un livre par sa couverture, se dit-elle. L'habit ne fait pas le moine, et plein d'autres choses comme ça. La pizza est trop chaude, la fille se brûle le palais. Ça goûte le carton salé. Elle mange un peu, boit un peu de bière. Elle a peur, ne sait pas mettre le doigt sur ce qui l'inquiète. Il a toujours été gentil avant. Elle ne sait pas ce qu'elle veut qu'il se passe. Elle ne sait pas si elle veut rester. Elle pense qu'elle ne veut pas. Elle ne sait pas comment le dire. Il s'installe devant un film. Elle est incapable de se concentrer. Elle est trop consciente de son bras autour de ses épaules. Il sent la sueur. Elle le trouve beau, malgré tout. Elle se traite d'idiote dans sa tête. Il vit dans un trou perdu, sa nourriture est mauvaise, il n'a pas de manière, mais elle le trouve beau quand même. Il commence à l'embrasser. Elle ne sait pas si elle en a envie, mais elle se laisse faire. Il la couche sur le sofa, l'embrasse encore. Elle étouffe sous ses baisers. Elle se laisse tripoter un peu, par-dessus ses vêtements. Il est de plus en plus maladroit. Il manque de délicatesse. Il lui serre la peau trop fortement, déchire ses collants. Il glisse un doigt en elle. Elle suffoque. Elle a mal. Elle ne comprend pas comment elle s'est retrouvée ici, sous lui, comme ça. Elle se traite d'idiote. Encore. Puis elle lui dit non. Elle le repousse. Il a l'air insulté. Elle se rassoit et redresse sa jupe. Il y a un trou dans ses collants. C'était ses préférés, avant. Maintenant, elle ne sait plus. Tu peux rester si tu veux. On n'a pas besoin de faire l'amour. Tu peux juste rester dormir. Elle dit non, encore une fois. Ils finissent le film en silence. Elle n'essaie même plus de parler. Elle essaie juste de retenir ses larmes. Et ça fonctionne. Elle pense au lendemain, au travail. Elle se demande la tête qu'il va faire. Elle se demande si elle va arriver à l'éviter, désormais. Le film se termine. Il lui dit au revoir. Elle sort, descend l'escalier en métal, marche un coin de rue et s'assoit sur le trottoir pour pleurer. Elle ne sait jamais comment dire qu'elle a mal. Elle sait juste dire non quand c'est déjà trop. Elle marche quelques coins de rue encore, puis prend un autobus pour rentrer chez elle. Le trajet est long. Elle n'a pas de livre et plus de piles sur son cellulaire. Elle regarde par la fenêtre. Elle sait qu'il ne l'appellera jamais. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Si elle était un homme, elle serait plus gentille que ça. Mais elle n'est pas un homme. En arrivant à son appartement, elle ôte ses collants et les met dans la poubelle.
Objet. Lettre de réponse à ce mec que j'ai croisé dans les toilettes du Rex. Le Rex étant une salle de concert à Toulouse. Toulouse, le 15 mars. Cher mec que j'ai croisé dans les toilettes du Rex. Nous nous sommes rencontrés un vendredi soir. Et si tu ne te souviens plus où, je te propose de regarder une ligne plus haut. Voici ci-dessous la conversation que tu voulais avoir avec moi. Bon. C'était vendredi soir et je m'étais dit, allez, aujourd'hui, on essaye d'éviter les conversations fâcheuses. Je ne sais pas si tu te rappelles de notre conversation, tu devais être largement bourré. Il faut dire que moi, je me rappelle de toi tellement tu m'as saoulé. En préambule, il faut que je te dise que la soirée avait mal commencé.
Je te contextualise parce que quand on souhaite discuter avec quelqu'un, c'est bien de savoir dans quel contexte cette discussion va avoir lieu, dans quelle disposition d'esprit est la personne avec qui on désire parler. Voilà une petite explication, juste pour te donner un peu le ton. 23h, on va boire un verre avec mes amis dans un bar pas loin. Bon, déjà, le bar s'appelle La Levrette, c'était un trigger warning qu'il fallait pas y mettre les pieds. Et ça a pas loupé, il a pas fallu 3 minutes sur la piste avant que deux de mes potes se fassent coller par un mec. Une première fois, ma pote lui dit de se casser, mais il ne semble pas avoir bien compris. Il a dû croire qu'elle lui proposait un jeu, une sorte de chat et souris. Du coup, dès que ma pote a eu le dos tourné, il a essayé de coller mon autre pote qui était juste à côté. Puis, leurs regards se croisent à nouveau, celle de l'agresseur et de ma première pote agressée. Dans son regard à lui, on peut lire de la satisfaction, un espèce de « c'est moi qui gagne au jeu de la domination et toi, tu vas rien oser dire de toute façon ». Il aurait sûrement continué son agression longtemps, frottant son jeans ça et là, discrètement, dans la salle bondée, où les gens sont collés les uns aux autres, de toute façon. C'était sûrement pas voulu de sa part, un accident sûrement, le son était trop fort, il a pas entendu que tu disais non. Il aurait sans doute continué toute la soirée, jouant de l'impuissance de celle qui n'aurait peut-être pas osé réagir, aurait juste décalé un peu plus, quelques mètres plus loin, pour ne plus devoir le sentir, pour s'éclipser de sa zone de prédation. Il aurait pu continuer comme ça longtemps, si ma pote n'avait pas eu le courage de l'afficher devant tout le monde, de répéter, plusieurs fois, haut et fort, « Tu arrêtes de te frotter à mes potes, sale porc !» Là, son regard a changé. Il a baissé la tête, sûrement pour éviter d'être grillé, qu'on le reconnaisse et qu'il ne puisse plus recommencer. Voilà un peu le contexte. On se casse de ce bar de merde et on va vers le Rex. Prépare-toi en coulisses, c'est à ce moment-là que tu rentres dans cette histoire. Je fais la file dans les toilettes du Rex. Plus précisément, la toilette des filles, comme on dit, tu vois, ces toilettes où si t'es un mec cis, t'es pas censé rentrer. Parce que si tu les as un peu écoutées, tu te mets à la place de ces personnes qui ont besoin d'un espace sans mec cis parce qu'elles se sont déjà trop faites emmerder, harcelées, agressées et qu'elles n'ont plus vraiment confiance et qu'elles n'ont pas envie qu'un mec cis débarque dans le seul endroit de la soirée en non-mixité, j'ai nommé les toilettes. Bon bref, je faisais la file dans les toilettes des filles. Tu sais ces toilettes, là où il y a un logo avec une robe qui est affichée à l'entrée, bordel, ils ont toujours pas compris au Rex que par exemple moi, je détestais mettre des robes, mais que je devais quand même pisser. Mais bon, c'est pas le sujet de la lettre, on va essayer de faire ça plus court. Bref, je faisais la file dans les toilettes des filles. Tu sais cette file qui commence bien avant le logo de la dame avec une robe, parce qu'il y a 10 fois plus d'attente dans les toilettes des filles, parce que les ingénieurs qui construisent les toilettes des filles sont pour la plupart des hommes, et qu'ils n'ont pas l'air de savoir qu'il y a une vessie par femme, tout comme il y en a une par homme. C'est ce qu'on appelle l'égalité vésicale. Et que du coup, nous, on a droit à une seule toilette en tout pour chier et pisser, parce qu'on n'a toujours pas droit à des urinoirs, et qu'en plus, le tiers d'entre nous va sûrement devoir changer son tampon, sa serviette ou sa cup durant son séjour dans l'unique toilette, ce qui augmente drastiquement la durée d'attente entre chaque utilisation du sanitaire. Bref, cela faisait donc déjà 10 minutes que j'attendais dans la toilette des filles, que je faisais la file dans la toilette des filles. Ça allait être mon tour, et là, cher mec cis que j'ai croisé dans les toilettes du Rex, tu arrives comme un génie, tu dépasses toute l'assemblée, et tu me demandes, de ta voix la plus galante, « Excuse-moi, est-ce que je peux passer devant toi? Je dois absolument faire caca. » Si, si, avec les manières, les formules de politesse et tout. Et moi, de te répondre, « Désolé, pas possible, c'est urgent pour tout le monde. Va faire la file de ton côté. » C'est vrai que ça avait l'air vraiment urgent ton truc. Tellement urgent que tu décides d'oublier ta merde et préfères provoquer la polémique. Je te cite. Franchement, si j'avais été une meuf, tu m'aurais laissé passer. C'est parce que je suis un mec, ça. Les jeux sont lancés, l'adversaire si prévisible sort la carte tant attendue de la victimisation. Et ce, avant même que le débat commence. Mais comme je me suis promis de m'embrouiller avec personne ce soir, je décide de ne pas jouer ce jeu-là. Alors, de ma plus douce voix, je te dis tout simplement, si t'étais une meuf, t'aurais fait la file comme tout le monde. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai pas listé les exceptions. Peut-être que si t'étais une meuf en train de perdre les os, ton tampon ou ton stérilet, je t'aurais peut-être laissé passer. De toute façon, clairement, si t'avais été une meuf, t'aurais su ce que c'est que de devoir faire la file dans les toilettes. Je te jure, t'aurais pas osé dépasser. On se dépasse pas entre nous dans les toilettes. On sait la galère que c'est d'attendre des heures pour pisser. Alors on s'anime, on papote, on se rencontre, on se raconte. Bref, on essaye de se soutenir, de faire passer au plus vite ces longues minutes de calvaire. Mais en tout cas, on se dépasse pas. Je t'ai prévenu que j'avais pas envie de discuter, parce que justement, je voulais pas rentrer dans toutes ces explications-là. Mais souviens-toi, c'est toi qui as insisté pour qu'on puisse causer. Bref, je dois pisser, donc je te dis, non, tu vas faire la file comme tout le monde. Et à ce moment-là, au lieu de te casser, tu me redemandes d'avouer que tu subis une différence de traitement parce que tu es un mec. Alors bon, déjà, sois content que je te tape pas la tête contre le logo de la dame en robe pour te faire rentrer dans le crâne que t'es pas dans la bonne toilette et que donc forcément il y a une différence de traitement. Mais je préfère, de ma plus douce voix, te répondre « En fait, j'ai juste pas envie de discuter avec toi. » Clair, net, précis, en général, si tu comprends le consentement, que t'as un minimum de savoir-vivre et d'empathie, tu comprends que la personne n'a pas envie de participer à une discussion que tu as imposée. Tu t'arrêtes là et tu dégages des toilettes où t'es pas censé mettre les pieds. Et surtout, tu me laisses aller pisser en paix dans ma toilette qui vient justement de se libérer. Mais non, le consentement, tu t'en gardes le fion. Et tu voudrais me faire encore avouer que vraiment, c'est difficile d'être un mec de nos jours, que quand t'es un mec, tu peux plus rien faire, que tu peux plus rien dire, et blablabli, et blablabla. Ça y est, la deuxième carte de la victimisation est sortie. Celle qu'on voyait venir à 1000 km, c'est-à-dire à peu près au début de la file des toilettes des filles. À ce moment-là, je comprends que tu as vraiment besoin d'être rassuré, que tu as besoin d'entendre de ma bouche que t'as raison, tes idées sont les bonnes, c'est difficile d'être un mec depuis le féminisme extrémiste, tu sais, les féminazis. Et que si les meufs veulent plus causer avec toi, c'est pas du tout parce que tu imposes des discussions et qu'ensuite tu prends pas la peine de les écouter. Désolé mon pote, c'est vraiment pas moi qui vais pouvoir te rassurer à ce sujet. Malheureusement, je comprends pourquoi ça te semble difficile. Ce moment avec toi aux toilettes, il m'aura bien fait chier. Mais au moins, il aura eu le mérite de m'inspirer une petite analogie pour te parler féminisme. Oui. Cher mec que j'ai rencontré aux toilettes du Rex, tu as bien entendu, après Anna B et Quentin GT, tu es devenue notre nouvelle muse. Cette nouvelle leçon, elle sera gratuite rien que pour toi et je l'ai nommée « Le féminisme expliqué de façon rapide et intuitive à ceux qui comptaient se frotter le cul avec ». Leçon numéro 1. Le principe d'un privilège. Voici un petit adage. Le privilège, c'est comme le papier toilette. Quand on n'en a plus, ben ça fait mal au cul. Et quand on n'en a jamais eu et que soudain l'autre en prend un peu moins pour t'en laisser un peu plus, ça irrite un peu moins l'anus. Leçon numéro 2. Pour mieux comprendre quels sont tes privilèges, remplace le mot privilège par un autre mot. Et vois si l'adage marche toujours. Exemple. Remplace le mot privilège par espace de parole. L'espace de parole, c'est comme le papier toilette, c'est que quand on n'en a plus, ben ça fait mal au cul. Et ben quand on n'en a jamais eu et que soudain l'autre en prend un peu moins et donc t'en laisse un peu plus, et ben ça irrite un peu moins l'anus. Ça semble fonctionner, tu peux donc en conclure que l'espace de parole peut faire partie des privilèges. Tu peux essayer pour t'entraîner de voir si ça fonctionne avec d'autres mots. Tu vas voir, c'est très amusant comme jeu. Ça te donnera peut-être envie de jouer les féministes avec tes potes en soirée. Donc, on en était où ? Ah oui, voilà. Que je dois avouer, c'est vraiment dur d'être devenu un mec. Mais qu'en fait, la toilette est libre et que je dois vraiment pisser. Et que je te redis non, vraiment, j'ai pas envie de discuter avec toi. Cette fois-ci, je me permets de rajouter, parce que tu commences vraiment à me courir sur le haricot. Et que tu sais, je dois pisser. Mais que j'ai un pote là plus loin, hors des toilettes, qui trouve pas que ce soit vraiment devenu tellement plus dur d'être un mec. Et que, peut-être, lui au moins, tu l'écouterais s'il avait la patience de t'expliquer son point de vue. Deux mecs cis, et pourtant féministes, et pourtant pas frustrés de pas pouvoir passer devant moi pour faire caca. Attention, là, tu t'apprêtes à sortir la troisième carte de la victimisation. T'as vu, c'est bien ce que je disais, il n'y a plus moyen de discuter avec vous. Bon, là, j'ai coupé court à la discussion. Désolée, j'ai pas le temps de discuter, je dois vraiment aller pisser. Puis ma cup va déborder, comme à peu près 4 soirs par mois, et mon utérus menace de s'arracher aussi. Il faut vraiment que j'aille vérifier s'il est toujours là. Et puis, de toute façon, j'ai vraiment pas le temps pour toi. Je dois aller checker si mes potes sont pas en train de se faire harceler par un mec qui lui doit penser, comme toi, que c'est vraiment devenu compliqué d'être un mec de nos jours. Ou bien je vais devoir encore me faire arrêter dans ma soirée par d'autres mecs comme toi qui vont vouloir que je les écoute, alors que je leur ai dit non, j'ai pas envie, et qu'il va encore falloir leur expliquer que quand on dit « j'ai pas envie », c'est inutile et tout à fait déplacé d'insister. Donc, laisse-moi pisser et surtout casse-toi, je te le redis. Ces toilettes, c'est sans mec 6 parce que c'est le seul endroit de la soirée où on peut se sentir safe, où on peut justement parler au cas où on se sent pas en sécurité. C'est le seul endroit où on peut dénoncer, demander de l'aide, des conseils. Donc, casse-toi, on veut pas toi dans nos toilettes, arrête de nous demander de t'éduquer et va chier ta merde ailleurs. Voilà, si j'avais pris le temps de discuter avec toi, tout ce que je t'aurais dit. Mais de toute façon, je pense pas que c'était ça que tu voulais entendre. Bien cordialement, bonne fin de journée, Mathilde.
Mmh.